Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Je crie après mes enfants, c'est plus fort que moi. Je suis pas capable de m'en empêcher. C'est comme si la frustration là, montait en moi, puis à un moment donné, le presto saute et je passe mes matins, mes soirées à perdre patience, puis ça finit toujours inévitablement en criant. Et de fait, c'est la seule façon que mes enfants m'écoutent. C'est un message que j'ai reçu dernièrement et dont j'avais vraiment envie d'adresser parce que je pense qu'on est plusieurs à se sentir dans une situation où est-ce que on crie puis on se sent coupable puis que c'est plus fort que nous. Et je m'inclus là-dedans, moi aussi, ça m'arrive là, de péter un plomb. De plus en plus rarement, je devrais dire de moins en moins souvent, mais ça arrive. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu la lumière là-dessus pour peut-être t'aider à mieux comprendre pourquoi on se rend là, te donner des trucs évidemment pour éviter de se rendre là, puis peut-être faire la paix aussi avec tes grosses émotions. Je suis vraiment très très heureuse de vous présenter le concours de la semaine qui est présenté par Olu. Olu qui est une entreprise locale 100% québécoise. Olu, c'est des vêtements évolutifs extrêmement confortables, unisexes et évolutifs. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être même par moi. Mes enfants, depuis qu'ils sont vraiment petits, ils ont des vêtements Olu. Extrêmement doux, extrêmement confortable, et c'est des vêtements qui sont faits plus longs au niveau de la cheville, mais quand même cintrés, ce qui fait que ça fait un petit peu plus baggy quand ils sont petits, mais ils peuvent les porter, là. Margot et Eleonore ont porté leurs vêtements Olu pendant près de 2 ans, donc ça vaut vraiment l'investissement, et d'ailleurs, pendant 2 ans, les vêtements sont restés hyper beaux. Avec Olu, on est loin de la fast fashion, parce que les morceaux sont créés un par un, de façon individuelle. Il n'y a pas beaucoup de stock non plus, évidemment, pour préserver notre belle planète. Et Charlotte, la belle Charlotte, derrière Olu a eu la gentillesse d'offrir un certificat cadeau de 50$ cette semaine. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter le podcast, de répondre à la question et d'aller vous inscrire sous le lien qui se trouve dans la description du podcast. Bonne chance à tous! Bon, on va mettre quelque chose au clair, là. Le fait de crier pour exprimer un mécontentement, c'est effectivement une façon de le faire qui est pas appropriée. Si nos enfants le faisaient ou quand nos enfants le font, ben c'est certainement quelque chose qu'on leur reproche. T'sais. On n'aime pas ça se faire crier après, personne n'aime ça se faire crier après. Le problème, c'est que souvent, quand nos enfants ont des grosses émotions, quand nos enfants chignent, quand nos enfants pleurent beaucoup, là, tu sais, de façon qu'on peut percevoir comme un caprice ou de façon exagérée, quand nos enfants font du chichi, ou quand nos enfants ils ont beaucoup de colère puis qui expriment leur colère de façon inappropriée ou leur mécontentement de façon inappropriée en frappant ou en criant ou en lançant des objets, ben ce qui arrive, c'est que pour notre cerveau, ça devient une contradiction avec tout ce qu'on a appris quand on a grandi. La plupart des gens qui sont ici, la plupart des gens qui sont nés dans les années 80-90, pour ton cerveau, c'est il y a comme une alarme qui sonne parce que c'est quelque chose qui concorde pas avec ce qu'on a appris. On a grandi toujours en se faisant dire faut réprimer les émotions c'est pas bien. Donc, dans ton cerveau, quand ton enfant vit une grosse émotion, ça fait probablement « M'aider, m'aider, vite, faut faire arrêter ça, c'est pas bon, les méchantes émotions! » Et nous, ce qu'on faisait quand on était jeunes, ben, c'est qu'on se faisait souvent envoyer en retraite, on se faisait isoler, on se faisait dire de se calmer, d'arrêter de pleurer, ou on se faisait envoyer dans nos chambres pour se calmer. Hein? Fait que, dans le fond, ce qu'on a appris, c'est « ben retourne d'où tu viens, méchante émotion, disparaît, ou fais semblant qu'elle est pas là. » Parce que ça rend mon parent pas content, faut pas faire ça, c'est pas correct. Puis je le sais là que aujourd'hui c'est pas ça qu'on veut, tu sais, que on est vraiment dans la validation des émotions, on est vraiment dans l'accompagnement des émotions. Probablement que pour toi, il y a comme un clash entre ce que tu veux faire maintenant et ce que tu ressens à l'intérieur de toi, dans ton cerveau. Et ça, c'est tellement normal, c'est que c'est vraiment long, très très long à défaire. D'où l'intérêt que tu poursuives qu'est-ce que tu es en train de faire dans l'accompagnement des grosses émotions de tes enfants, que tu continues à permettre les grosses émotions de tes enfants, même si il va y avoir des hauts, même s'il va y avoir des bas, même si des fois ça va être un petit peu plus difficile, c'est tellement important de continuer à le faire parce que ça va être un gros poids, un gros bagage de moins pour eux à défaire. Tout ce qu'on est en train de faire, nous, de travailler dans la tolérance à la frustration des grosses émotions de nos enfants. Même si on croit, là, même si on se dit comme « Non, moi, je suis une maman ou un papa qui accepte toutes les émotions », on peut le dire, mais inconsciemment, quand on est confronté à ça, c'est normal si ton cerveau va dans un endroit où est-ce qu'il y a un petit peu moins de tolérance, où est-ce que t'es un petit peu plus trigger, où est-ce que t'es un petit peu plus pigné, où est-ce que ça te fait un peu plus réagir, où est-ce que tu peux être porté à crier un petit peu plus vite ou à t'emporter devant les grosses émotions parce que c'est très très long à déconstruire dans ton cerveau. Je sais pas si tu connais ça, moi j'ai appris ça récemment en parlant avec une personne. Ce qu'elle m'a appris, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des passages intergénérationnels. Et ça, c'est... pour faire une histoire courte, c'est un peu un réflexe inconscient qu'on a appris de nos parents. Fait que c'est vraiment comme ou de nos grands-parents, où ça se passe vraiment de génération en génération. Donc c'est vraiment des comportements qui sont acquis parce qu'on les a vécus aussi. Par exemple, mon parent me criait beaucoup après, c'était souvent ça, la relation, c'était souvent comme ça que passait la communication. Quand mon parent voulait exprimer une limite ou une conséquence, ça se faisait souvent dans la frustration. Donc moi, de façon très inconsciente, même si c'est pas ça que je veux faire, quand je veux une émotion puis que je suis un petit peu frustrée, si je veux mettre une limite à mon enfant, ben au lieu de le faire dans la chaleur et dans l'amour, parce que ça peut très bien se faire, ben des fois quand que je suis un petit peu trop triggered puis un petit peu trop dans mes émotions, je vais reproduire un peu ce qui était fait avec moi. Donc, plutôt que de le faire dans la chaleur, je vais le faire en étant bête, tu sais, en disant comme « Là, ça suffit! Va t'asseoir à la table, prends-toi un livre puis calme-toi! » Alors que ça pourrait être fait de façon, tu sais, « Ok, là, mon amour, je pense que en ce moment, tu as vraiment atteint ma limite. Ton jeu est pas calme, c'est pas sécuritaire. Je veux que tu prennes un livre et que t'ailles t'asseoir. Si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire pour toi. Je vais choisir un livre à ta place. » Donc, vous voyez la nuance, ça peut vraiment être fait de deux façons complètement différentes, mais des fois, de façon totalement inconsciente, on se laisse emporter par nos émotions et on reproduit un comportement ou une attitude que nos parents avaient avec nous. Donc, ces passages intergénérationnels-là, s'il y avait beaucoup de frustration, s'il y avait beaucoup de cris dans votre famille quand vous étiez jeune, si c'était un petit peu de cette façon-là que les émotions étaient communiquées, ben ça se peut que ça soit encore beaucoup présent de façon inconsciente dans votre quotidien aussi de parents. Pis ça, on peut le voir chez nos enfants. T'sais, nos enfants apprennent beaucoup par imitation et ça se fait vraiment de façon inconsciente. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est, je sais pas si t'as déjà vu tes enfants faire des jeux d'imitation de genre, ils jouent à l'école, ils jouent à la garderie ou même ils jouent à papa-maman et à un moment donné, dans leur jeu, il y a des enfants qui font des mauvais comportements et il y a le parent qui crie. Ou ça peut être un jeu de garderie où est-ce que, mettons, c'est la sieste, puis là, il y en a l'enfant qui joue, le bébé est couché, puis là, il y a l'éducatrice ou l'enseignante, puis là, elle se fâche, puis elle dit « Je t'ai dit de dormir tout de suite! Si tu dors pas tout de suite, je vais t'enlever ton toutou! » Et c'est là qu'on peut voir, qu'on peut vraiment observer dans les jeux d'imitation. Moi, ça me fascine. On peut se voir nous-mêmes. C'est vraiment confrontant parce que ça devient un petit peu le miroir de nos propres interventions où on peut avoir une très bonne idée de comment ça se passe à l'école, de comment ça se passe à la garderie. Donc, je vous le dis, les éducatrices, vous m'écoutez, ou éducateurs, faites attention à comment vous intervenez avec les enfants, même si des fois c'est plus fort que vous. Sachez que c'est souvent répété ensuite dans les familles, à la maison ou dans les jeux comme ça. Peut-être que vous l'observez aussi dans vos propres milieux de garde. Donc c'est des comportements qui sont répétés parce que les enfants vont le faire par imitation. Sauf que l'affaire, c'est que s'ils le font maintenant par imitation, c'est qu'en ce moment, ils sont en train d'intégrer, t'es en train de faire un passage intergénérationnel avec ton enfant et plus tard, ça se peut qu'il soit beaucoup dans les méthodes d'intervention où est-ce que le cri fait partie de la méthode de communication parce que c'est ça qu'il a appris et de façon totalement inconsciente, même s'il est un peu plus à l'aise que nous on l'est avec nos émotions, ça se peut que nos enfants aient une méthode de communication qui est un petit peu plus, entre guillemets, violente. Puis là, je sais, souvent ça fait un peu peur de dire ça comme ça, mais c'est juste que c'est, dans le fond, c'est pas une méthode de communication. Crier, c'est pas bienveillant. Et loin de moi l'intention de vous faire culpabiliser, là, c'est vraiment pas ça l'intention. C'est juste que des fois, je veux pas vous flatter toujours dans le sens du poil. Des fois, il y a des choses qu'on a besoin de se faire dire, puis moi, mon rôle, c'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre. Tu sais, oui, vous êtes des super parents, tout ça, puis tu sais, je le répète souvent, puis vous êtes super bien intentionnés, puis vous faites de votre mieux, puis ça, c'est vrai, puis je le pense, c'est très sincère. Mais des fois aussi, de changer un peu, d'essayer de changer un peu vos perceptions peut créer chez vous des déclics, même si ça fait mal, même si ça vous brasse un petit peu, ça peut être important dans ce processus-là, justement, de comme, d'apprendre à communiquer de façon différente, d'apprendre à moins crier après nos enfants. Après ça, il y a personne de parfait, puis ça se peut que ça réarrive. Mais au moins de le voir, de comprendre, ça peut vraiment aider. Fait que mon but, c'est pas de faire culpabiliser si personne ou de mettre la pression à personne, c'est vraiment de vous aider à faire ce petit cheminement là qui peut être très long. Crier et avoir ce genre de communication-là dans une famille avec des jeunes enfants, ça fait peur aux enfants. Et ça, c'est la science qui le dit. Et je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas envie d'un climat où mes enfants sont continuellement dans la peur puis qu'ils obéissent à l'autorité parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se soumettent à l'autorité parce qu'ils ont peur. J'ai envie que oui, ils collaborent et qu'ils respectent mon autorité, mais pas parce qu'ils ont peur, parce que justement, on a instauré un climat de respect dans la famille, d'écoute et d'empathie, de compassion. Quand nos enfants ont des grosses émotions, je l'ai dit tantôt, ça peut nous pigner, ça peut nous trigger. Si jamais t'as besoin d'aide pour accepter les grosses émotions, faire la paix un peu avec le fait que les grosses émotions sont normales et avoir un petit peu plus des pistes pour savoir justement comment accompagner ces émotions-là au day-to-day. Est-ce qu'il faut toutes les adresser, les émotions? Est-ce que faut en faire une grosse histoire à chaque émotion? Est-ce qu'il faut en parler pendant 15 minutes à chaque fois que mon enfant a une petite émotion? Ben, la réponse est non. Parce que ça deviendrait vraiment, vraiment une grosse charge mentale, là. C'est impossible de gérer toutes les émotions. Puis ton enfant veut pas que tu gères toutes ces, chaque petite émotion qu'il y a, là, en les décortiquant. Là, on est en train de surintellectualiser les émotions de tes enfants. Donc, si ça peut t'aider, je t'invite à écouter l'épisode 41 qui parle des grosses émotions puis des fausses perceptions que des fois les enfants exagèrent et qui ont des fausses émotions. D'ailleurs, je veux te dire que si ton enfant exprime ses émotions, explose devant toi, ben c'est un excellent signe, ça veut dire qu'il te fait confiance et qu'il sait qu'en ce moment, il est dans un environnement sécuritaire pour exprimer toutes ces émotions-là. Il sait que tu vas être capable de le prendre en charge. Donc, si ton enfant se laisse aller là-dedans, c'est probablement un des plus beaux compliments que ton enfant peut te faire. Fait que je sais pas si ça t'aide un petit peu mieux comprendre le comment du pourquoi on crie, si ça peut aussi t'aider à faire la paix puis à justement te déculpabiliser, parce que c'est un peu ça le but, parce que des fois on crie puis on est comme « mais je comprends pas pourquoi je fais ça, pourquoi je vais là, mais là je sais pas, mais peut-être que ça t'a aidé à faire le début d'un petit cheminement pour mieux comprendre pourquoi tu vas dans des comportements où tu cries. Il y a plein d'autres raisons aussi, puis tu sais, ça va peut-être t'allumer des lumières là au fur et à mesure que je parle des clés ou des suggestions pour demeurer un petit peu plus calme dans tes interventions. Et la première, et non la moindre, si c'est un pattern qui revient souvent, si tu penses que ça peut être dû à un passage intergénérationnel, si t'as vraiment de la difficulté à te comprendre, à comprendre ta colère, tu ressens beaucoup de colère à l'intérieur de toi et tu te comprends pas ça vient d'où, puis tu vas nécessairement souvent dans des comportements ou des attitudes de colère, ben la première chose que j'ai envie de te dire, c'est d'aller chercher de l'aide. Si tu penses que tu en as besoin, que ça soit un psychologue, de faire une thérapie pour essayer de mieux te comprendre et avoir des trucs aussi qui vont être beaucoup plus personnalisés que ce que moi je peux t'apporter. Moi, je vais apporter des idées, mais peut-être que ces idées-là vont pas convenir à tes besoins parce qu'on est tous différents. Il y a aussi l'atelier mère qui peut être d'une grande aide pour mieux te comprendre, pour te permettre aussi de te foutre un peu la paix avec la culpabilité, de mieux comprendre la culpabilité et de la laisser un petit peu plus couler des fois, parce que c'est pas toutes les situations qui valent la peine d'être toujours adressées là puis surintellectualisées. Des fois, ça fait plus de mal que de bien. Je parle aussi beaucoup dans cet atelier-là de stratégie pour mieux comprendre ton impatience et pour devenir justement un petit peu plus patient, pour mettre surtout ton bonheur au premier plan et pour prioriser tes besoins, parce que on se le cachera pas, mais quand on a une grosse émotion, souvent c'est parce qu'on a un besoin non répondu, hein. Fait que mettons, je sais pas, moi, si tu deviens impatiente, c'est souvent parce que mettons tes enfants là, ils reviennent de l'école, là, t'as eu une grosse journée ou de la garderie, là, puis là il y a beaucoup de bruit, puis là ça t'agace parce que dans le fond ton besoin c'est que t'as un besoin de calme, t'as un besoin de silence, et là ben ça te rend très impatiente parce que ce qui se passe en ce moment c'est totalement l'inverse de ce que t'as de besoin. C'est-à-dire que c'est très chaotique, c'est propice au débordement, puis là ben t'as peur que ça explose encore plus, puis ton cerveau il est juste comme wow, wait a minute. Et donc, si tu laisses ça aller en disant comme c'est normal, c'est des enfants, c'est normal, c'est des enfants, puis en mettant pas ta limite, puis en essayant pas de voir ou de comprendre quel est ton besoin derrière le petit feeling d'impatience qui commence à s'installer, quand si tu essaies de le faire taire, ben c'est là que tu risques à un moment donné de péter un plomb, parce que ton besoin de silence, de calme, il est là, mais il n'est pas répondu. Non seulement il n'est pas répondu, mais en plus, au lieu de le voir, d'essayer de le comprendre, tu le fais taire en te disant comme c'est des enfants, c'est normal, ils ont besoin de bouger, chut, 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 mon émotion d'impatience ou mon émotion qui commence à monter, c'est pas bon les émotions, on repousse ça, je suis capable de garder le contrôle, jusqu'à temps qu'on soit plus capable de garder le contrôle, et là ça pète et là on crie. Ok? Donc, le fait d'avoir des besoins non répondus peut jouer beaucoup sur l'humeur. Fermez la parenthèse. L'atelier mère peut t'aider à vraiment mieux percevoir ces besoins-là. Je donne plein de trucs pour justement faire le plus petit pas possible pour justement répondre rapidement à un besoin ou voir rapidement un besoin, ce qui peut vraiment apaiser ton cerveau et t'aider à demeurer vraiment plus calme, à diminuer ta colère, à diminuer ton impatience qui te pousse à crier sur tes enfants. Donc, tu vas trouver l'atelier mère dans la section formation sur mon site web wikid.ca. Donc, ce qui peut t'aider aussi à justement être moins impatiente et à être moins dans la colère, dans la frustration, ben c'est d'évacuer tes tensions, d'évacuer ton stress. Parce que, et ça aussi, c'est prouvé par la science, si t'as beaucoup de stress, si t'es très tendu, c'est sûr que t'es plus à cran, c'est sûr que t'es vraiment plus disposé à exploser et donc à crier sur tes enfants. Parce que souvent quand on explose, là, c'est rare là qu'on va exploser, c'est rare qu'on va imploser, puis c'est rare qu'on va juste rien faire. Là. Tu sais, quand on explose, on explose, et souvent la façon la plus logique de le faire, c'est de crier, et c'est la même façon que nos enfants réagissent. Le presto saute, nos enfants crient, nous aussi on saute, on crie. Sauf que les enfants, quand ils crient, c'est un petit peu aussi par imitation. Bref. Donc, pour évacuer tes tensions, pour éviter de garder trop de stress à l'intérieur de toi, ben là, il y a plusieurs moyens qui existent. Tu peux même faire une petite recherche sur Internet, où j'en parle aussi beaucoup dans l'atelier, justement, mère. Mais, tu sais, ça peut être de bouger tous les jours, de faire une petite période de yoga ou d'aller prendre une marche, peut-être, une fois que les enfants sont couchés. Si tu as la chance d'avoir un ou une partenaire qui est là à la maison avec toi, ben peut-être qu'il peut prendre en charge des routines le soir pendant que tu vas marcher, pendant que tu vas faire un petit yoga, peut-être ça peut être d'intégrer un sport à quelques journées, semaines, peut-être sur ton heure du midi, de prendre un 20 minutes ou un 30 minutes pour faire une activité physique qui va te permettre de limiter ton taux de cortisol dans ton corps. Le fait de bouger aide beaucoup à la gestion du stress, donc ça peut être ça. Sinon, avoir une bonne hygiène de sommeil. Ça, là, c'est souvent négligé, puis on est comme, ben oui, mais je dormirai quand je serai mort. Ça, mon chum, il dit tout le temps ça. Sinon, il y a des parents qui disent, ben moi, j'ai pas l'opportunité de dormir. Puis, tu sais, ça, je le comprends aussi, totalement, là. Ne vous inquiétez pas, là. Moi aussi, je suis tout le temps en recherche d'hygiène de sommeil, sauf que des fois, là, on va se dire la vérité, là, juste entre nous. Des fois, ça arrive aussi que je suis fatiguée, puis que j'arrive dans mon lit à 8-9 heures le soir. Puis qu'au lieu de mettre mon téléphone de côté, d'ouvrir un livre, de faire une méditation, de, je sais pas moi, de faire un brossage à sec qui est super génial pour la circulation sanguine, soit dit en passant, ou tu sais, de faire quelque chose qui va vraiment m'apporter du bien puis qui va vraiment m'apaiser, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ouvre mon téléphone. Puis je vais sur Instagram, je vais sur TikTok et je consomme. Et je consomme et je consomme et je consomme. Puis là, ben on voit pas le temps passer quand on fait ça, hein? Parce que notre cerveau il est bien stimulé en plus. Des fois, ça cause des difficultés d'endormissement. Et ben, je suis pas en train d'avoir la meilleure hygiène de sommeil. Mais si t'en as besoin, you do you. C'est correct aussi. Je dis pas de changer toutes tes habitudes, puis je dis pas ça pour te faire sentir coupable ou te faire sentir cheap. Mais sache que après tu feras la décision que tu veux. Les recherches le prouvent. Le manque de sommeil affecte énormément les fonctions cognitives, en fait. Affecte aussi directement ton taux de cortisol. Ça veut dire que moins que tu as une bonne hygiène de sommeil, plus que tu vas avoir un taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, élevé. Et donc, moins tu vas être patiente. Et aussi, les filles, les hommes, sachez que le manque de sommeil ou avoir une mauvaise hygiène de sommeil contribue de façon marquée au vieillissement prématuré de la peau. Fait que dormir, là, les filles, les gars, c'est mieux qu'une crème de visage à 150$. Hey, là, je viens de vous faire économiser de l'argent. Donc, le sommeil, ça peut vraiment aider à ce que tu sois plus en fonction de contrôler les frustrations, la colère et donc l'impatience et les cris. Ensuite, ce que tu peux faire, ben déjà d'avoir une routine sécurisante, c'est hyper sécurisant, non seulement pour tes enfants, mais aussi pour toi. En ayant une routine sécurisante, ben en fait, ce que ça fait, c'est que tes enfants, ils peuvent plus anticiper. Et donc, c'est super apaisant pour eux, sont moins dans les débordements, c'est moins chaotique. Et donc, quand que t'as l'impression que la situation est plus en contrôle, ça se peut que tu sois moins, toi aussi, que ton cerveau soit moins tout le temps dans un état d'alerte. Pour ce faire, là, tu le sais sûrement, ça fait plusieurs fois que j'en parle, j'ai un outil de routine visuelle qui est disponible sur ma plateforme dans la section boutique Wikid, dans mes outils. C'est un outil numérique que tu peux faire imprimer à la maison, qui est vraiment pas cher. Puis l'avantage, c'est que tu peux en faire imprimer plusieurs copies si jamais tu perds des pictogrammes, ou si jamais tu veux en mettre sur plusieurs étages, ou si jamais, je sais pas moi, peut-être que vous êtes séparés, papa-maman en veut chacun un, tu veux en envoyer un chez grand-maman, chez grand-papa. L'avantage, c'est que on peut avoir plusieurs copies, et cet outil-là comprend 85 cartes actions là, à peu près, donc il risque d'avoir de tout pour tes besoins. Mais si c'est pas le mien, là, c'est pas grave, c'est bien correct. Je t'invite à aller chercher l'outil qui va le plus répondre à tes besoins, peu importe ce qu'il sera. Ça aussi, c'est démontré que quand on utilise un outil de routine visuelle, c'est extrêmement aidant pour sécuriser les enfants, pour les apaiser, pour diminuer l'anxiété et pour surtout répondre à un besoin d'autonomie, ce qui va faire en sorte que les enfants vont être beaucoup moins dans l'opposition, qu'ils vont être beaucoup plus dans la collaboration et que ça va favoriser aussi leur estime. Donc ça, le fait d'avoir cette routine sécurisante-là qui est très répétitive, que les enfants peuvent participer, ça peut être apaisant pour ta charge mentale, ça peut t'aider à te sentir plus en sécurité, plus organisé, et ça peut faire en sorte qu'il va y avoir moins de débordements et donc moins de cris, moins de chaos dans ton quotidien. L'autre chose que j'ai envie de te dire aussi, c'est que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser qu'on met une limite claire auprès de nos enfants. Et là, ben, on va la répéter, notre limite, puis on va la répéter, puis à un moment donné, nos enfants, ça fait 3-4 fois qu'on répète, puis ils écoutent pas, fait que c'est là qu'on explose. Et là, j'avais envie de parler très rapidement, parce que le temps avance extrêmement vite, de c'est quoi mettre une limite claire. C'est important de le faire avant d'atteindre la frustration. Dès là que tu ressens un petit feeling de comme, ah, je suis pas bien, mais c'est des enfants, je vais les laisser aller, respire, Mélanie. Mais c'est que là, il est déjà quasiment trop tard, ok? Si t'agis pas maintenant, les chances sont que tu risques d'exploser. Déjà, quand tu ressens ce petit feeling-là, là, que ça ping, que ça titille, si t'agis pas maintenant, les chances sont que tu risques d'exploser dans les prochaines minutes. By the way, ça fait plusieurs fois que je dis ping, je fais référence à l'épisode 103. Va écouter ça, ça va vraiment t'aider à voir un petit peu plus les comportements, les attitudes de tes enfants qui peuvent te déclencher, et à l'inverse, les comportements, les attitudes que t'as peut-être qui déclenchent tes enfants, ça pourrait vraiment changer beaucoup dans ta perception au quotidien. Et par rapport à la limite claire, parce que là, le temps va bien trop vite, fait que je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je vais faire un podcast dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur les limites claires. Je me rends compte que c'est vraiment pas bien compris des parents, ou mal compris, ou mal utilisé. Donc, le fait de mettre une limite claire, c'est pas juste de dire quelque chose, de dire une consigne, par exemple, arrête de sauter sur le divan. Arrête de sauter sur le divan, ce n'est pas une limite claire, c'est un ordre, c'est une suggestion, c'est pas une limite claire. Une limite claire serait de dire à ton enfant, le divan, c'est pas un endroit pour sauter. Là, je veux que tu t'assoies maintenant ou je vais venir te chercher pour que tu viennes m'aider à terminer le souper. Fait que le fait de mettre une limite claire, c'est vraiment d'exprimer à notre enfant ce à quoi on s'attend du comportement et même déjà d'énumérer la conséquence qui va être en lien avec si l'enfant n'écoute pas. Donc, techniquement, l'enfant, il a pas grand-chose à faire autre que d'écouter la consigne. Tu sais, mettons dire « débarque du divan, débarque du divan, débarque du divan », ça serait pas la limite claire. Donc, c'est vraiment, le divan n'est pas un endroit pour sauter. Fait qu'on nomme comme « garde, ça c'est ce que je veux, ça c'est ma consigne. Tu t'assois maintenant, ce que je m'attends de toi, ou je viens te chercher pour que, et tu vas venir m'aider à faire le souper. Parce qu'il faut que je te surveille. Parce que t'as besoin de mon aide pour faire des meilleurs choix en ce moment, ou t'as besoin de mon attention. Ok? Fait qu'on dit vraiment comme la consigne, l'attente, et ce qui va se passer si l'enfant écoute pas. Et je vais en reparler parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et la dernière chose, très rapidement en terminant, ben c'est de montrer l'exemple, la modélisation ou le modeling dans le jargon professionnel. Ben c'est vraiment de démontrer à nos enfants qu'il y a d'autres façons de justement parler de notre limite, que peu importe quelle est la limite, là, de démontrer nos limites, de dire à quelqu'un de communiquer un mécontentement, de communiquer une émotion de façon plus acceptable que de crier. Donc, ce que tu peux faire quand tu sens que tu vas être sur le bord d'exploser, là, tu commences à hausser le ton, c'est de dire à tes enfants, « Hey, là, j'ai vraiment besoin d'aller me calmer, je vais aller dans ma chambre, je vais aller dans la salle de bain, je vais aller dehors, je vais aller respirer, je vais aller... Oh, » Nomme, dis à voix haute ce que tu t'en vas faire pour t'aider à te calmer. Et tu vas voir qu'à force de le faire, qu'à force de le pratiquer, tes enfants vont commencer à t'imiter. Oui, ça va prendre beaucoup de répétitions, là, ce sera pas magique, ça va pas arriver demain matin, mais à force de le pratiquer, quand tes enfants vont vieillir, tu vas voir que ça va s'ancrer un petit peu plus en eux, qu'ils vont même pouvoir t'aider à te dire « Là, maman, je pense que tu commences à avoir des grosses émotions, peut-être tu devrais aller respirer dans ta chambre. » Mes enfants le font avec moi, puis à chaque fois, je suis comme... Wow! Je me tape sur l'épaule, je suis comme good job! Good job! Quand tu vois que tes enfants reflètent ce genre de mentalité-là ou ce genre de réflexion-là dans leur tête, c'est que t'as fait une christine bonne job, là! Et avec le temps aussi, parce que des fois, les parents vont me dire « Oui, mais moi, mon enfant ne respecte pas ça, il me laisse pas la place, je vais dans la salle de bain puis il cogne à la porte. » C'est pas grave. Barre la porte puis reste là, parce que dis-toi qu'avec la répétition, à un moment donné, tes enfants vont comprendre ça aussi, vont comprendre ce besoin-là, puis ils vont voir que c'est ça ta limite, puis que même si je varge dans la porte, maman, papa ouvrira pas la porte. Je te dis, mes enfants de 4 et 6 ans me laissent cette place-là maintenant. Ça a été long, mais ils le font. Pas plus tard que cette semaine, ma fille est venue cogner à ma porte, puis elle a ouvert la porte, puis elle m'a dit « Maman, est-ce que c'est un bon moment maintenant où tu as encore besoin de quelques minutes pour te calmer? » J'étais comme, ok, vraiment là, je suis vraiment fière de mes enfants. On dirait qu'ils ont pris un coup de maturation dernièrement. Et c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut pas lâcher avec nos efforts, même si c'est difficile. Parce que des fois là, c'est crissement difficile pis on est comme, mais ça marche pas! Ça ne marche pas le gentle parenting, ça ne marche pas la parentalité sécurisante, ça ne marche pas la bienveillance. Mes enfants le font pas, je taboute. Patience. Patience et persévérance et constance, j'ai envie de te dire. Tu vas voir, à un moment donné, ça va être ultra payant, même si tu le vois pas maintenant, à force de le faire, à force de le répéter, quand tes enfants vont avoir acquis un petit peu plus de maturité au niveau de leur cerveau, pas la maturité, puisque c'est à partir de 25 ans, mais quand ils vont acquérir un petit peu plus de maturité, quand ils vont avoir un petit peu moins de limites cognitives, tu vas voir que là, ça va se mettre en place de façon full naturelle et que là, tu vas être vraiment fière de toi et avec raison. Et tu peux déjà être fière de toi. Tu peux déjà être fière de toi pour tous tes efforts parce qu'en ce moment, tu contribues à faire de tes enfants des humains beaucoup plus outillés que nous, on l'a été. Hey, je vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Tourlou!